Louis-Marie, pas d'invité aujourd'hui, mais des conseils pour passer un bon moment au cinéma. Alors ça, c'est ce qu'on aime, évidemment, passer des bons moments au cinéma et avec vous. Et où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui?
Eh bien, nous allons d'abord occuper des ronds-points et puis nous nous lancerons dans un chantier pharaonique.
Alors, occuper des ronds-points, d'accord. On va commencer par ça, si vous le voulez bien.
Les Braises, c'est le troisième long métrage de Thomas Kruithof, s'ancre dans l'automne 2018, au moment où le mouvement des Gilets jaunes réunit des travailleurs épuisés espérant un monde plus juste. Parmi eux, Karine, ouvrière d'usine, mère de deux adolescents et épouse de Jimmy, routier indépendant, voit sa vie bouleversée par cet élan collectif. Après Les Promesses, son précédent film, Thomas Kruithof retrouve Jean-Baptiste Delafont, son complice, pour l'écriture du scénario. Une fois l'idée de départ trouvée, comment les deux auteurs ont-ils tiré le fil de l'histoire qu'ils racontent dans Les Braises? Thomas Kruithof livre ici quelques clés.
Notre idée de départ avec Jean-Baptiste Delafont, avec qui j'avais déjà écrit Les Promesses, c'était de faire un film sur l'engagement citoyen, un film sur la politique, mais sans homme politique. Et de le voir résonner à travers un couple. Dans un couple, il y a aussi de la politique, quoi. Un couple, c'est une vision du monde. On partage une vision de l'avenir. Et là, on a un couple qui s'aime depuis 20 ans, très fort. Et les événements du film vont faire vaciller ce couple-là. Voilà, est-ce qu'on peut toujours s'aimer quand on ne partage plus totalement la même vision? C'est cette zone que traverse le film. Après, il faut qu'un couple puisse s'adapter au changement. C'est vrai que là, le passage à l'engagement militant, sa découverte de l'engagement collectif, en tout cas pour le personnage de Virginie Efira, c'est finalement quelque chose que le mari accueille sans méfiance au début, et puis en limite peut-être en l'encourageant, tout en étant un peu étranger, et puis ça prend une place de plus en plus grande dans sa vie à elle, et donc dans leur vie. Et puis après, il y avait cette particularité des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a quelque chose de spontané, qui a initié beaucoup de gens à la politique. Comme notre personnage, qui fait qu'on a aussi choisi de parler des Gilets jaunes pour ces spécificités-là.
Le film débute sur une scène de tendresse et de complicité entre Karine et Jimmy, symbolisant une existence simple mais solide, soudée par l'amour. Puis peu à peu, le récit se déploie, les manifestations, les violences policières, les difficultés économiques, les humiliations quotidiennes. À travers le parcours de Karine, Les Braises interrogent la colère sociale et la quête de dignité d'un peuple qui se sent oublié. Portée par la solidarité du mouvement, Karine s'éloigne de sa famille, investie dans la lutte avec ses camarades. Le film montre comment la foi en un changement possible peut sublimer ou fragiliser les liens personnels. Virginie Efira et Harry Vortalter incarnent ce couple avec une justesse et une intensité remarquables. Kruithof filme avec pudeur et humanité la beauté et la dureté du réel, alternant moments d'espoir et de désillusion. Avec Les Braises, il signe la première œuvre de fiction sur le mouvement des Gilets jaunes, regardant la France populaire sans condescendance, entre lumière et obscurité.
Alors Louis-Marie, on a mis notre casque, les chaussures de sécurité, prêt à investir votre chantier pharaonique.
Eh bien, avec L'Inconnu de la Grande Arche, Stéphane de Moustier nous replonge dans le début des années 80, à l'époque des grands travaux mitterrandiens. 1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture internationale pour l'aménagement de la tête défense, qui verra l'édification de la Grande Arche dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. À la surprise générale, c'est l'architecte danois Johan Otto von Spreckelsen et son projet original de cube qui l'emportent. Cet homme de 53 ans, inconnu en France, qui n'a construit que sa propre maison et quatre églises, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Si l'architecte entend bâtir son cube tel qu'il l'a imaginé, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. C'est avec le livre de Laurence Cossé, La Grande Arche, que Stéphane de Moustier découvre tout ce qui a amené à l'édification de cette construction hors norme. Il décide d'en faire l'adaptation, attiré surtout par le personnage de Sprekelsen, Stéphane de Moustier.
J'ai découvert cette histoire en lisant le livre de Laurence Cossé, et ce qui m'a intéressé, c'était ce personnage, le personnage de Sprekelsen, que personne connaît, dont personne ne connaît en fait le destin, et qui est absolument hors du commun. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que dans le livre de Laurence Cossé, ce personnage avait beau être central dans l'histoire, parce que c'est l'architecte de la Grande Arche, il n'en reste pas moins totalement méconnu. Il y a très très peu d'informations sur lui, il n'y en avait pas avant, il n'y en a pas eu après. Donc on ne sait rien de lui, c'était vraiment comme un point aveugle du livre, alors que c'est la pierre angulaire de ce projet de l'Arche. Donc il y avait là un personnage mystérieux, énigmatique, autour duquel j'avais envie de travailler. S'ajoutait à ça le fait que le destin de cet homme, à un moment, est entré en véritable collision avec notre histoire, puisqu'il va faire face à la cohabitation en 86, la Grande Arche étant un des premiers grands travaux de François Mitterrand. Et avec le basculement de la cohabitation, il prend ça de plein fouet et ça remet tout en cause. Et cette cohabitation, cette entrée dans l'ère libérale, c'est le tournant vers une époque qui court toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un film qui parle des années 80, qui est ancré dans les années 80, mais qui raconte aussi la fin d'un monde, on dirait, romantique, pour l'entrée dans une ère qui a toujours cours jusqu'à aujourd'hui, qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus brutale.
L'inconnu de la Grande Arche est une reconstitution minutieuse et captivante du chantier de la Grande Arche de la Défense. Monument emblématique, aligné sur l'axe historique de Paris. À la fois documenté et romancé, le quatrième opus de Stéphane de Moustier explore avec précision les rouages techniques, politiques et humains d'un projet colossal soumis aux aléas du pouvoir et aux revirements gouvernementaux. Thriller politique et financier, le film dévoile les luttes d'influence, les rivalités d'ego et la complexité des rapports entre artistes, décideurs et investisseurs. Au centre du récit se dresse le portrait d'un architecte intègre mais obstiné, dont l'ambition se heurte aux contraintes politiques et économiques. Autre point fort du métrage, son casting remarquable, en tête duquel on trouve l'acteur danois Claes Bang, qui incarne un Sprekelsen charismatique et vulnérable. À ses côtés, Xavier Dolan est impressionnant dans le rôle de Subilon, conseiller présidentiel dépassé par les intrigues du pouvoir, sans oublier Michel Faux, particulièrement convaincant en Mitterrand. Stéphane de Moustier a joué sur les contrastes, énergie et physique différents, pour faire fonctionner à plein son histoire.
Je pense que ce qui fonctionne bien dans ce casting, c'est les contrastes, c'est-à-dire qu'ils ont des énergies très différentes, des physiques très différents. D'abord, ça peut parfois créer des effets de comique. Il y a quelque chose de burlesque dans ce film, c'est ils essayent de construire un cube et puis ils n'y arrivent pas. Et puis c'est comme nous, on veut faire de notre mieux, puis on se prend les pieds dans le tapis en permanence, c'est ça notre condition humaine. Bah, ils n'arrêtent pas de se prendre les pieds dans le tapis, il y a quelque chose de comique. Et de les voir aussi différents, de voir que Dolan a une espèce d'énergie tourbillonnante, alors que Claes Bang, il est totalement inamovible, granitique, presque. Michel Faux, il a beau être minimaliste, il y a un relief chez lui et une force comique qui transparaît. J'aimais bien qu'ils soient tous dans des registres assez différents et que j'ai accompagné, c'est-à-dire qu'ils avaient tous une nature qui les amenait plus naturellement dans telle ou telle direction, et moi j'ai vraiment essayé d'accompagner ça en me disant que plus ils seraient différents et mieux ça fonctionnerait en fait.
À ce trio d'acteurs formidables, il faut ajouter Sidse Babette Knudsen, juste parfaite en épouse complice autant que calculatrice, et Swan Harlow, idéal en maître d'œuvre ambitieux. À travers ce récit d'une création artistique broyée par la politique et l'argent, l'inconnu de la Grande Arche interroge les limites de l'intégrité et du génie, tout en donnant, avec un réalisme saisissant, un chantier monumental qui marquera à jamais le paysage parisien.